Merci d'écouter Radio Okapi. C'est l'heure de vous informer. Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Radio Okapi.
RDC cap sur 18 milliards de dollars de recettes propres en 2027. C'est ce qui ressort des concertations entre les vice-premiers ministres et ministres du budget avec les ministres des différents secteurs hier vendredi au centre financier de Kinshasa. Jeune orchestre de jeunes formés à Kinshasa pour promouvoir la mémoire, la paix et le patriotisme. Je vous signale que cette session de formation a débuté jeudi dans toutes les provinces de la RDC et Kinshasa a constitué la dernière étape de ces ateliers. Après des années marquées par les attaques des ADF, le secteur de Rwenzori est-il réellement en train de tourner la page de l'insécurité? Où en est aujourd'hui cette entité du territoire de Beni? Pour répondre à ces deux questions capitales, nous nous faisons le plaisir de recevoir pour vous Jafté Mapati, chef du secteur de Rwenzori. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal Parler du matin. La RDC ambitionne de mobiliser davantage les ressources propres dans les années à venir. Le gouvernement projette d'atteindre 18 milliards de dollars américains de recettes internes en 2027 avec pour objectif de franchir la barre des 40 milliards de dollars à l'horizon 2035. Ces perspectives ont été au centre des échanges hier vendredi à Kinshasa entre les vice-premiers ministres en charge du budget Adolphe Muzito et les ministres des différents secteurs dans le cadre des conférences budgétaires consacré à la préparation de la loi de finances 2027. Lancée mercredi pour une durée de 10 jours, ces travaux doivent aboutir à l'élaboration de l'avant-projet du budget de l'État pour l'année prochaine. À l'ouverture de ces assises, Adolphe Muzito a appelé les participants à faire de cet exercice un véritable cadre de vérité budgétaire et de responsabilité. On écoute le vice-premier ministre et ministre du budget Adolphe Muzito dans cet extrait proposé par Guy Matetongo.
Le budget 2027, qui s'inscrit dans une trajectoire pluriannuelle des relèvements progressifs de la pression fiscale, envisage un taux de progression de 14% contre 12,5% de l'année en cours, avant de passer à une moyenne de 15% en 2028 et 2030. L'objectif demeure porté au-delà de 17% à l'horizon 2035. Suivant cette dynamique, les recettes courantes évolueraient de 15,3% de dollars américains en 2026 et à 18 milliards en 2027 avant d'atteindre 21 milliards de dollars en 2028. Nous pensons qu'à l'horizon 2035, nous pourrions atteindre 40 milliards de dollars américains. Le niveau des recettes ainsi envisagé devra donc refléter le réel potentiel fiscal de notre pays dans le respect des principes budgétaires édictés par la loi relative aux finances publiques. En conséquence, j'invite les régies financières et les services d'assiette de déployer des efforts de maximisation de recettes.
La ville de Mbandaka tient depuis jeudi dernier sa session ordinaire du conseil communal. Les conseillers y évaluent notamment l'état d'avancement des travaux d'assainissement et d'hygiène environnementale prévus dans les plans d'aménagement adoptés lors de la précédente session, l'éclairage public, la gestion des marchés ainsi que d'autres préoccupations liées au cadre de vie des habitants figurent également parmi les priorités examinées. Plus de détails avec Askin Zigbatayoro.
Selon le président du bureau du conseil communal, Gelor Ekonzo Ilengila, ce plan d'action porte sur l'aménagement des espaces publics, la gestion des marchés et l'installation de lampadaires pour l'éclairage public dans le 10 quartiers de la ville. L'objectif est de renforcer la gouvernance locale et d'assurer un meilleur contrôle de l'exécutif communal. D'après le conseil communal, le bourgmestre est tenu d'appliquer ce plan d'assainissement. Toutefois, sa mise en œuvre sur le terrain reste insuffisante. À l'ouverture de cette session, le président du conseil a par ailleurs remercié le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, pour sa décision d'attribuer au conseil communal le pouvoir de contrôler le bourgmestre. Ce dernier est nommé par ordonnance présidentielle, tandis que les conseillers sont élus par le peuple. En clair, selon le témoignage de 9 conseillers communaux, le bourgmestre nommé par ordonnance présidentielle ne respecte pas les exigences liées au rôle du conseil communal. Ces remerciements concernent également la prise en charge salariale des conseillers communaux par le gouvernement central, des salaires qui n'étaient pas prévus dans le budget de l'État. Interrogé sur l'actualité politique nationale, Guilore Ekonzo Ilengela s'est dit favorable à une révision ou à un changement de la Constitution, tout en insistant sur la nécessité de soumettre cette réforme au vote du peuple par référendum.
Au Congo central, le trafic ferroviaire entre Matadi et Kinshasa reste interrompu sur plusieurs tronçons de la ligne. En cause, les importants dégâts causés par les fortes pluies qui avaient frappé Kinshasa en avril dernier. Selon Jean-Claude Ngoma Moussa, directeur du chemin de fer du Congo central, des travaux de réhabilitation sont en cours sur deux sites particulièrement touchés, à Limité et à Kimwenza. Cette situation retarde les retours des trains de voyageurs et des marchandises annoncé il y a quelques mois par l'ONATRA. Les détails avec Élise Kavira.
Alors que la population du Congo central espérait retrouver les voyages en train entre Matadi et Kinshasa, les dégâts causés par les pluies diluviennes qui ont frappé la capitale congolaise en avril dernier continuent de retarder la reprise complète du trafic voyageurs et marchandises sur cette voie ferroviaire. À Limété, sur l'avenue Poids Lourd, au niveau de la 17e rue, un ouvrage de drainage s'est effondré, fragilisant la voie ferrée. Des travaux sont en cours pour reconstruire cette infrastructure et permettre une meilleure évacuation des eaux. À Kimwenza également, le chemin de fer a été endommagé. Les équipes techniques y reconstruisent un système de drainage qui devra canaliser les eaux vers la rivière Lukaya et sécuriser durablement la voie. Selon Jean-Claude Ngoma Moussa, directeur du chemin de fer du Congo central, la reprise complète des trains voyageurs et marchandises dépend de l'achèvement de ces travaux de réhabilitation. Il rassure toutefois que les chantiers avancent à un bon rythme et que le retour à la normale ne devra plus tarder. En attendant, un trafic partiel est maintenu entre Matadi, Minkelo et Lukaya pour le transport des marchandises, notamment celles destinées aux cimenteries de la région. Matadi, Élise Kavira, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, les travaux de réhabilitation de l'avenue Kassai dans la commune de Barombo avancent au ralenti. Sur le terrain, les arrêts et les lenteurs dans l'exécution du chantier sont régulièrement constatés au grand désarroi des usagers et des riverains. Selon les ingénieurs, ces retards sont notamment liés à des difficultés d'approvisionnement en matériaux de construction essentiels. Une situation qui a également des répercussions sur la réouverture du marché central de Kinshasa, celle-ci restant tributaire de l'achèvement des travaux sur les principales voies d'accès au centre-ville. Les détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
À l'approche de la saison des pluies, les travaux de l'avenue Kassai avancent à pas de tortue, au grand regret des usagers des populations riveraines. Ces œuvres nécessitent souvent la réhabilitation préalable ou simultanée des canalisations souterraines et des collecteurs d'eau pluviale afin d'éviter les inondations, ce qui complexifie et allonge les délais techniques. Les ajustements dans les financements des projets d'infrastructures urbaines contraignent parfois les entreprises à tourner au ralenti en attendant la régularisation de certaines situations administratives ou financières. Face aux désagréments occasionnés pour la circulation, l'avenue Kassai, qui joue un rôle important dans les délestages et des liaisons dans cette zone proche du centre-ville, nécessite une intensification du contrôle et un suivi rigoureux par l'autorité provinciale ou l'office des voiries et drainages afin de pousser l'entreprise à accélérer la cadence. Cette avenue, qui relie la Gombe à Barumbu, a longtemps souffert d'un délabrement avancé marqué par des bourbiers et nids de poules majeurs lors des intempéries.
Autre nouvelle, une centaine de jeunes en formation à Kinshasa, question de leur permettre de renforcer les capacités des ambassadeurs de la réparation et de mobiliser la jeunesse autour du devoir de mémoire de la paix, de la réparation et de l'éveil patriotique. Cela en prélude de la commémoration nationale du génocide, ce dimanche 2 août 2026. Des assises organisées par le Réseau national citoyen pour la mémoire, la paix, la réparation et l'éveil patriotique. Je vous signale que cette session de formation a débuté jeudi dans toutes les provinces de la RDC et Kinshasa a constitué la dernière étape de ces ateliers. Le point avec Vanessa Nkongolo.
Réunis en académie, des centaines de participants ont eu droit à une formation donnée par des intervenants sur ce qu'il faut savoir du génocide et les devoirs de mémoire qui s'imposent à tout citoyen. Matière bien assimilée par les participants, parmi lesquels Myriam Bokamba.
Le 7 juillet particulier, à savoir, c'est de lutter pour la vérité et sur la mémoire de ceux qui nous ont précédés par la guerre, de massacres, de viols.
Claude Mbouyi, président du Conseil national de la jeunesse, a mis l'accent sur la signature de la pétition.
L'objectif est que le jeune puisse signer la pétition et mobilise les communautés pour signer dans ces messages qui nous rappellent qu'on n'oubliera jamais les crimes. Et ensemble, nous allons nous battre pour que ces crimes sous génocide soient reconnus.
Pour sa part, Carbone Beni, directeur exécutif de l'ASB Likonia, a rappelé les rendez-vous de ce dimanche 2 août.
Nous serons tous les 2 août à Kinshasa à partir de 15h sur le parc de 4e rue en face du parquet général. Et le soir, vers 18h, nous serons à l'échangeur délimité dans un concert d'hommage aux victimes, mais aussi sur toute l'étendue du pays.
Cette année, la commémoration du génocide revêt un caractère populaire.
Coup de projecteur à présent sur la lutte contre les violences basées sur les genres du côté de l'Ituri, à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine célébrée le 31 juillet de chaque année. À cet effet, l'association des mamans anti-bois qui a lancé hier vendredi un projet, cela grâce à un financement de 168 000 dollars américains de l'organisation ONU Femmes à Bounia. Sa mission, renforcer la protection, l'accès à la justice et l'autonomisation des femmes vivant en milieu rural dans les zones de santé de Bounia et Darou. Le récit de Jean-Claude Lokidile.
Parmi les bénéficiaires figure Virginie Kakwa, mère de 3 enfants, victime de violence il y a près de 20 ans. Elle a perdu un pied et vit depuis dans une précarité. Comme de nombreuses femmes en situation de handicap, elle espère que ce projet changera réellement leur quotidien.
Ce projet va beaucoup nous aider à prendre en charge nos enfants, car souvent les femmes vivant avec handicap sont abandonnées avec leur grossesse par leurs auteurs.
Pour les autorités locales, cette initiative répond à une réalité préoccupante dans les communautés rurales. Jules Taguirabo, représentant du bourgmestre de la commune de Mbounia.
Beaucoup de cas de viol dans la communauté. Les auteurs de ces viols courent dans la nature jusqu'à aujourd'hui. Les victimes ont été sans assistance, sans prise à charge, sans accompagnement, ont été abandonnées.
Au-delà de l'assistance aux survivantes, le projet prévoit également un accompagnement économique afin de favoriser leur autonomie, explique Béatrice Divé, responsable de l'ONG AMAB.
Il y aura un appui pour la réinsertion socio-économique de manière qu'on relève d'abord le niveau des femmes.
Pendant 12 mois, le projet entend ainsi améliorer l'accès des femmes et des filles rurales aux services de prise en charge tout en renforçant leurs droits et leur autonomisation économique. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
Le programme alimentaire mondial vole au secours de près de 40 000 personnes déplacées et familles d'accueil au Nord Kivu. Ces personnes bénéficient d'une assistance alimentaire depuis le début de la semaine à Lubero Centre, chef-lieu du territoire du même nom. Une aide destinée à répondre aux besoins des populations affectées par des années d'insécurité. Les détails avec Martial Papimoukeba.
Haricots, farine de maïs, céréales et légumineuses. C'est le contenu des rations distribuées aux déplacés et aux familles d'accueil à Lubero Centre. Cette opération, menée par l'association des petits éleveurs, tanneurs et maroquiniers du Congo à Petamako, avec l'appui du programme alimentaire mondial, comprend aussi des compléments nutritionnels destinés aux enfants les plus vulnérables. Cette assistance concerne essentiellement des ménages et a fui les combats dans les sites du territoire de Lubero lors de l'occupation de plusieurs localités par l'AFC-M23, mais aussi des familles déplacées par les attaques répétées des ADF et d'autres groupes armés. La société civile locale salue cette assistance tout en rappelant qu'elle ne répond qu'à l'urgence. Pour elle, le véritable défi reste le retour de la paix, en fait de permettre aux milliers de déplacés installés depuis plus de 2 ans à Lubero Centre de regagner leur village. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Mali, après une année de détention, Moussa Mara doit être libéré ce samedi. L'ancien premier ministre avait été arrêté le 1er août 2025, puis condamné pour atteinte au crédit de l'État et opposition à l'autorité légitime. En cause, un message publié sur les réseaux sociaux dans lequel Moussa Mara a porté son soutien à des prisonniers d'opinion et déclaré vouloir se battre par tous les moyens pour que le soleil succède à la nuit.
L'invité.
Le pire est-il désormais derrière les secteurs de Rwenzori? Longtemps éprouvée par les attaques des ADF, cette entité du territoire de Béni enregistre une baisse notable des violences. Cependant, la population attend des avancées concrètes en matière de sécurité, de développement et de reconstruction. Où en est réellement le secteur de Rwenzori aujourd'hui? Élément de réponse avec notre invité Jafté Mapati, chef du secteur interrogé par Martial Papimoukeba.
Jafté Mapati, bonjour.
Bonjour.
Comment décrivez-vous aujourd'hui la situation du secteur de Rwenzori entre défis sécuritaires et besoins de développement?
Pouvoir retenir que ça fait maintenant environ 3 ans que la situation sécuritaire en secteur Rwenzori est relativement calme. Parlant de la situation sécuritaire, là je vois surtout les attaques des rebelles EDF, dont la dernière remonte en janvier de l'année 2025 à l'OCLOC. Mais bien avant ça, ça faisait maintenant 3 ans que nous n'avions pas encore enregistré un seul cas d'attaque. Cette amélioration de la situation sécuritaire a permis à la population du secteur d'évacuer ses activités champêtres, à retourner dans leurs champs, parce que comme vous le savez, nous sommes dans un secteur qui est principalement en vocation agricole. Quand la paix, la sécurité sont rétablies dans les secteurs, il y a plusieurs défis qui se présentent, et notamment les défis d'ouverture de routes à des certes agricoles. Nous sommes dans une zone à vocation agricole. Il y a aussi les ponts qui se retrouvent en fait dans ces routes de desserte agricole. Et là, je cite surtout la route qui va de Mwenda Kikingi, qui est une route d'importance très, très capitale, non seulement sur le plan agricole, mais aussi sur le plan opération militaire.
Quelles sont aujourd'hui les principales préoccupations de la population et comment votre administration y répond-elle?
Les principales préoccupations de la population aujourd'hui restent en tout cas l'amélioration à l'accès à l'eau, la desserte en eau potable. Nous avons mené quelques plaidoyers auprès des partenaires financiers et techniques qui nous ont vraiment appuyés. Là, je cite la Monisco, je cite les consortiums Tier Found de CICR qui nous ont vraiment appuyés, n'est-ce pas, à terme d'amélioration de la couverture des dessertes en eau dans les secteurs. Nous pouvons citer par exemple Kilia, Mutuanga et Murambaya Viro Masambo dans le groupement Basongora. Mais il reste encore des défis. Il y a des zones et des endroits qui ne sont pas encore desservis. Nous continuons à appeler ces partenaires qui ont répondu à notre plaidoyer de continuer à nous venir en appui et nous appeler aussi d'autres qui ne sont pas encore intervenus dans les secteurs, de pouvoir se joindre à ceux qui sont là afin de pouvoir contribuer aux efforts de la stabilisation et de la consolidation de la paix dans les secteurs de Rwenzori.
Dernière question, malgré les défis persistants dans les secteurs de Rwenzori, quelle est votre vision pour l'avenir de ce secteur?
C'est de voir, en tout cas comme je disais tantôt, les routes être réouvertes. Parce que, comme vous le savez, la guerre a causé à certaines infrastructures de base et importantes d'être détruites. Certaines parmi elles, notamment les écoles et les centres de santé, ont été incendiées dans le passé.
C'est notamment
au niveau de Kabalwa, au niveau du village de Kilia, au niveau du village de Kiavikere, où nous avons vraiment enregistré d'énormes pertes en termes d'infrastructures et il n'y a pas de moyens pour pouvoir les réhabiliter ou les reconstruire carrément. Bien sûr, nous avons bénéficié des projets des 145 territoires initiés par Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. Nous avons bénéficié de certaines écoles, infrastructures sanitaires. C'est ici pour nous l'occasion de saluer et de remercier cette vision du chef de l'État. C'est de pouvoir donner les infrastructures viables aux milieux ruraux qui étaient longtemps oubliés, mais cela n'est pas encore suffisant. Il y a des endroits où, comme je le disais tantôt, ces infrastructures ont été incendiées et qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas encore été réhabilitées dans certaines agglomérations du secteur de Rwenzori.
Jafet Mapati, merci.
Merci.
C'était notre invité Jafté Mapati, chef du secteur des Rwenzori, qui s'entretenait avec Martial Papimoukeba. Voilà qui met fin à ce journal du matin, coordonné et supervisé par Lévin Mbwinga et mis en onde par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net. Place à présent aux informations sportives avec Blaise Ndongala Mayanda qui vient de me rejoindre dans ses studios. Bonjour Blaise.